Bonjour à tous et bienvenue à ce condensé de l'actualité pour le compte de cette semaine qui s'achève. 8 ans après leur licenciement, les SACE MAEP 2014 appellent l'État à l'aide. Le coup de gueule est assuré. Également au menu de ce condensé, vous entendrez les récriminations du collectif des jeunes avocats commis d'office. Rencontre nationale sur la redevabilité en matière du droit à l'avortement sécurisé au Bénin. Les travaux ont pris fin ce samedi. Vivant ou mort, les jumeaux sont célébrés au Bénin comme des demi-dieux. À suivre un reportage de la rédaction. Le sport, bien sûr, c'est dans une vingtaine de minutes avec Awaï Ali. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau bonjour et bienvenue à tous. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples dénonce la répression policière actuelle liée aux infractions du code de la route. Selon l'organisation, il s'agit d'une guerre déclenchée par la police républicaine sous le regard du président Patrice Talon contre des populations béninoises. Aboubaka Baparapé, président de l'ODHP.
Ce dont il s'agit dans cette opération devrait être une opération citoyenne, non seulement de contrôle, mais également de sensibilisation et d'accompagnement des citoyens pour que la loi dans notre pays soit respectée. Nous sommes tous unanimes pour reconnaître la nécessité de préserver la vie pour la construction de la nation. Mais sur le terrain, qu'observons-nous? Eh bien, c'est des excès de zèle avec des coups et blessures sur des motocyclistes ou des passagers ou des courses-poursuites qui finissent par des blessures ou des chutes qui entraîne des pertes en vies humaines. Il n'y a qu'à tendre les oreilles dans la population pour entendre des témoignages affligeants sur ce genre de drame. D'autre part, on ramasse les motos qu'on jette sans ménagement dans des pick-up ou des camions pour les convoyer dans les commissariats de police, ce qui entraîne des casses sur des engins moyens de production de cette couche sociale vulnérable. Mieux, il est annoncé ces derniers temps que ces motos entassées dans les commissariats seront vendues aux enchères au public.
Pour la deuxième phase de cette répression annoncée pour fin avril 2024, l'ODHP invite la police républicaine à faire une opération citoyenne de contrôle et de sensibilisation. Suivez Maître Aboubaka Baparapé, président de l'ODHP.
On y parle de répression de surcharge pour des motocyclistes et les automobilistes. Et la surcharge ne sera pas réprimée si l'âge du troisième passager est compris entre 0 et 10 ans. Il faut craindre de nouveaux abus et de nouvelles vexations contre la population. C'est pourquoi l'ODHP, dans sa mission d'information et d'alerte, invite plutôt les autorités de la police républicaine et le gouvernement à en tirer les conséquences et mettre fin à ces exactions inacceptables, car la solution à la sécurité routière devrait être d'abord et avant tout le développement du transport en commun. Cela évitera aux populations d'avoir recours à des motocyclettes. Ensuite, à la subvention des casques pour que l'achat de ces casques soit accessible au plus grand nombre. On n'oubliera pas le contexte dans lequel nous sommes actuellement, un contexte de crise économique, d'amenuisement du panier de la ménagère, un contexte de fin, de diminution du pouvoir d'achat de nos concitoyens.
Lors de l'Assemblée générale avec les travailleurs du ministère du cadre des vies et des transports, le syndicat national des travailleurs de l'administration des transports et des travaux publics, Sintra-TTP, a dénoncé et rejeté la lettre du directeur national de contrôle financier Aristide Eda relative à la suspension de dotation en carburant au personnel des ministères et institutions. C'était dans la cour du dit ministère mardi dernier. Dans une déclaration dont je vous propose un extrait, Athanase Onsou, le secrétaire général du Sintra-TTP appelle au respect de la hiérarchie.
Nous, travailleurs du ministère du cadre de vie par ma voix, protestent contre la lettre confidentielle circulaire numéro 033-MEF-DNCF-SP du 12 mars 2024 du directeur national du contrôle financier, dont la substance est de rappeler au ministre sectoriel l'interdiction de doter du carburant de façon individuelle à certains agents de l'État. Chers camarades, cette lettre circulaire n'a ni tête ni queue, tout simplement parce qu'elle ne se réfère à rien. Elle ne se réfère à aucun arrêté signé de qui que ce soit, ni à aucun décret du gouvernement ayant reçu un contresign. Aussi, de ce point de vue, elle n'a aucun fondement, ni réglementaire, ni normatif administrativement parlant. Toute seule, elle tombe dans la déchéance. Un directeur, aussi national soit-il, ne peut instruire de son initiative un ministre sectoriel. Cette lettre, comportant les manquements ci-dessus, nous autres défenseurs de l'administration et des agents qui l'animent, venons dénoncer le zèle du collaborateur du ministre d'État qui considère l'administration publique comme une pétaudière.
Toujours dans le monde syndical, le secrétaire de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Naini Kassamampo, dénonce les résultats fabriqués des élections professionnelles sectorielles de mars 2024 au Bénin dans le secteur de l'éducation. Mardi, à l'ouverture du Conseil syndical extraordinaire de la FESEN CSTB à la Bourse du Travail de Cotonou, le responsable syndical est revenu sur le sujet, plaçant sa dénonciation dans son contexte. Je vous invite à écouter le secrétaire général de la CSTB, Kassamampo.
Vous êtes allé aux élections en portant les lunettes de combat, à savoir que les élections professionnelles doivent être perçues comme étant une activité qui permet de désigner les représentants des enseignants et du personnel administratif dans les différentes instances paritaires et qu'il faut accompagner à travers les luttes syndicales qui doivent être reprises, à savoir les grèves, les marches, les sit-ins et toute manifestation revendicative qui doit vous permettre de vous faire entendre au niveau des instances paritaires. C'est donc sous l'angle-là que vous êtes allé aux élections. C'est donc sur cette base que vous êtes allé aux élections au niveau de la FESEN CSTB. Sans oublier que dès que les élections ont été annoncées, après que le gouvernement a organisé les dites élections, dans d'autres ministères, dans au moins 5 ministères, avec le vote manuel. Mais dès que le gouvernement est revenu à son vote électronique, sans discussion préalable avec les syndicats, la CSTB et ses fédérations avaient perçu que c'était un début de fraude.
Pour le secrétaire général, il faut une reprise des élections afin de garantir la transparence des votes. Il y va de l'intérêt des acteurs du secteur de l'éducation, a souligné Kassamampo, que je vous invite à écouter à nouveau.
Vous devez comprendre que le combat se poursuit. C'est normal de demander d'annuler purement et simplement les résultats, les élections qui ont été organisées les 29-30 mars et le 4 avril. Vous comprenez que dans l'enseignement supérieur, comment peut-on comprendre par exemple que les professeurs d'université soient représentés seulement par le personnel administratif? Est-ce que ça peut se comprendre? Peut-on comprendre par exemple que dans l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, que nulle part que la CSTB ne soit présente, alors que tout le monde sait que depuis 2016-2018, le porte-parole véritable des travailleurs et même des enseignants, c'est beaucoup plus la CSTB. Dans ces conditions, de toute façon, d'autres syndicats aussi ont contesté et sont d'accord avec la CSTB qu'il faille annuler non seulement les élections, mais qu'il faut revenir au vote manuel pour qu'on sache qui à voter pour qui. Après avoir voté, vous comptez les voix et vous savez, vous compilez, vous savez qui a gagné. Il faut revenir au combat. Et c'est pour cela que vous avez programmé une grève pour les 23 et 24 avril. Vous devez tout faire pour que cette grève connaisse un succès.
Restons toujours dans le monde syndical pour dire que le collectif des anciens agents contractuels de l'État, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, appelle le président Patrice Talon au secours. Au chômage depuis plusieurs années, ces ex-agents ont organisé un point de presse vendredi au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour appeler le gouvernement à jeter un regard sur leur dossier. Écoutez ici le porte-parole du collectif, Alassane Adamou.
Nous avons appris le décès
tragique de plusieurs de nos anciens collègues, dont certains étaient des piliers de leur famille et de leur communauté. Nous sommes convaincus que ces décès sont directement liés au licenciement et aux difficultés économiques et sociales qui ont découlé, ce qui a réduit aujourd'hui notre effectif de 1045 à environ 800 agents. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent et sommes déterminés à poursuivre notre engagement pour maintenir et améliorer la performance du secteur agricole au Bénin. Ces agents licenciés ont des compétences et une expertise précieuses dans le domaine agricole. Leur réintégration permet au ministère de l'Agriculture de bénéficier et de leur expérience et de leur savoir-faire, contribuer au développement du secteur agricole béninois. Ils pourraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre des politiques agricoles du gouvernement. Nous implorons la clémence du chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement, la réintégration des assureurs du ministère de l'Agriculture licenciés en octobre 2016.
Présent à cette conférence de presse, le secrétaire général de la CSTB, Kassam Mpo, et le secrétaire général du Sinatrade, Anatole Emma, appellent le gouvernement au social et invitent les travailleurs à tenir.
Nous demandons au président Patrice Talon et à son gouvernement de corriger, de voir le social, de voir ces messieurs et ces dames qui sont en train de souffrir depuis des années et de savoir qu'ils comblent un vide qui est encore là. Sur cette base, la CSTB vous soutient et vous demande de continuer à vous faire entendre partout.
Ça va être le début du lancement des hostilités jusqu'à la satisfaction de cette revendication-là. Je voudrais sincèrement pouvoir compter sur vous, sur votre engagement. Parce que lorsqu'on s'engage dans cette affaire, il faut vraiment un certain courage pour aller jusqu'au bout. Il y aura certainement des épines sur la voie, il y aura certainement quelques obstacles, mais je vous prie de rester soudés afin que nous puissions vraiment réussir cet objectif-là. Parce qu'il est clair aujourd'hui que dans le dispositif du Conseil agricole qui est sur le terrain, on n'arrive du tout plus à encadrer les producteurs agricoles.
On reste toujours avec les mouvements d'humeur pour dire que Maître Renaud Aboudjo, le président de l'Association des jeunes avocats du Bénin, a déclaré sur Crystal News que les avocats commis d'office pendant les coups d'assises n'ont pas perçu depuis bientôt 4 ans leurs indemnités afférentes à cette activité. Tout en fustigeant cet état de choses, l'homme de droit a appelé au règlement de ce contentieux qui n'a fait que trop durer.
L'ensemble des avocats n'a pas été défrayé des indemnités qui découlent de leur participation aux sessions d'assises depuis 2020. Nous ne demandons pas. Vous savez, quand on demande à un avocat de laisser son cabinet pendant 3 jours, d'aller à Natitengou, parce que quand vous quittez Cotonou, avec tous les risques, on fait 2 jours de voyage et le jour du procès, donc ça fait 72 heures. Vous le faites à Natitengou. Quand on sait que par tribunal, il y a 2 sessions d'assises par an. Vous le faites à Natitengou, vous le faites à Malanville, vous le faites à Parakou, vous le faites à Komé, vous le faites à Lokosa, vous le faites à Port-Nouveau, vous le faites à Djougou. Mais à un moment donné, on en ressent. On le fait à crédit parce que nous préfinançons de notre poche. Quand on le fait pendant une année, on peut comprendre. Quand on le fait sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça commence par peser dans la caisse de l'avocat, surtout que l'avocat est un libéral.
Page santé de cette édition. Au Bénin, la rencontre nationale sur la redevabilité en matière du droit à l'avortement sécurisé s'est tenue à l'hôtel du lac de Cotonou. C'est une initiative de la coalition des jeunes pour l'avortement sécurisé au Bénin. Nadirat Bioperege était sur les lieux. Voici son compte rendu.
Institutions gouvernementales, activistes, militantes et féministes ont répondu présents à cette rencontre nationale sur la redevabilité en matière du droit à l'avortement sécurisé au Bénin. Une rencontre organisée par la Coalition des jeunes pour l'avortement sécurisé au Bénin, COJAS Bénin. Kifayat Tokoshabi, secrétaire exécutive de la COJAS Bénin, parle ici des objectifs de cette rencontre.
C'est une rencontre nationale sur la redevabilité en matière matière de droit à l'avortement sécurisé au Bénin. Elle vise à renforcer l'engagement des parties prenantes impliquées dans la défense du droit à l'avortement à travers la mise en place d'un mécanisme de redevabilité novateur pour approfondir en quelque sorte la compréhension nationale de la question de redevabilité sur la thématique d'avortement sécurisé.
Au menu de cette rencontre, plusieurs activités, dont des sessions sur la redevabilité, des panels de discussion, le renforcement des capacités, des travaux de groupe, la co-création et le partage d'expériences. Face à l'impérieuse nécessité de la redevabilité en lien avec l'IVG, l'urgence d'un dialogue national des jeunes. C'est le thème abordé dans le premier panel. Yanki Dokoto, représentante du ministère de la Justice, explique ce que c'est que l'IVG.
L'IVG, ce sont les conséquences d'une part des actes posés par deux personnes. Cet acte-là, avec consentement ou pas, si on arrive à une décision d'interrompre la vie de ce fœtus, c'est parce qu'il y a une cause. À la jeune fille, quel est le courage de parler, d'en parler déjà à sa maman ou à son papa ou la personne avec qui elle est lorsqu'elle pose l'acte, d'un rapport sexuel. Ce n'est pas tabou aujourd'hui d'avoir un rapport sexuel. En revanche, cacher les conséquences de ce rapport sexuel peut porter à sa santé, porter atteinte à sa vie.
Au cours de cette assise, chaque panéliste a mis l'accent sur les enjeux que représente la redevabilité en lien avec l'IVG pour qu'elle puisse favoriser la promotion de l'avortement sécurisé au Bénin. Hermine Bokossa, programme officieur de Angel Health, se confie sur ses attentes.
Nos attentes, c'est de pouvoir voir des espaces de demande de compte ou de suivi des engagements entre jeunes et décideurs, beaucoup d'espaces de ce type-là animés dans un futur proche et que les recommandations ici ne soient pas juste un discours, mais qu'on puisse vraiment voir dans la pratique qu'il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'instances et de structures de redevabilité qui sont actionnées entre les jeunes qui sont des détenteurs de droits et les décideurs qui sont les détenteurs de pouvoir.
Grâce à l'intervention des institutions gouvernementales, activistes, militantes et féministes, les participants sont sortis de la conférence galvanisés. Écoutons quelques-uns parmi eux.
Je suis satisfaite. Avant de venir ici, moi, je voulais vraiment comprendre si la population, à la base, était réellement informée de ce qu'on appelle vraiment l'IVG. Parce que quand tu parles du cas de l'IVG, de l'avortement, et au niveau de certaines personnes de la population, c'est comme si tu veux encourager la dépravation et tout ça là.
Donc nous avons déjà eu des réponses très intéressantes. La première des réponses est que nous avons deux grands défis à relever. Le premier défi, c'est la synergie d'action entre les différents acteurs impliqués dans le cadre de la lutte pour la promotion des avortements sécurisés dans le pays du Bénin.
À noter que la rencontre nationale sur la redevabilité en matière du droit à l'avortement sécurisé au Bénin prendra fin le samedi 14 avril 2024.
Pour fonder un foyer, il est conseillé de faire des examens prénuptiaux au nom desquels figure l'électrophorèse qui est d'une importance capitale pour les couples. Mais malheureusement, peu de jeunes fiancés y taillent d'importance, se retrouvant sous le même toit sans être compatibles. Quelle est l'importance de l'électrophorèse? La réponse à travers ce reportage de Fabrice Asia Marley.
Le tout ne suffit pas de tenir compte de l'amour pour choisir son ou sa partenaire de vie. Toutefois, il faut nécessairement mener aussi des démarches sur le plan sanitaire comme le test d'électrophorèse afin de connaître sa compatibilité avec son ou sa partenaire.
Bon, en ce qui concerne l'électrophorèse, moi je pense que c'est d'une importance capitale qu'il faut connaître le type auquel nous appartenons afin qu'on puisse éviter des progénitures toujours malades. En étant jeune et en voulant fonder un foyer, on doit penser faire nécessairement l'électrophorèse afin que nous puissions également connaître le partenaire idéal et fiable. Et
la médecine nous a prouvé qu'il y a l'électrophorèse qui est très très important, capital avant qu'on ne se mette ensemble, puisque ça permet à chacun de connaître son groupe et son résus. Et donc, pour un couple, il faut nécessairement l'électrophorèse. Cela permettrait à ce qu'on n'ait pas des enfants avec avec des handicaps qui, dans l'avenir, ne cesseront jamais de nous faire dépenser. Quand on ne le fait pas, on a beaucoup de risques et on peut faire des enfants létals, beaucoup d'enfants qui ont des modifications bizarres. C'est l'exemple des tépanositaires que parfois on a des enfants tépanos qui ne cessent de faire dépenser aux parents chaque année et après finalement c'est qu'ils meurent prématurément. Donc,
l'électrophorèse est un test qui permet de détecter l'anomalie dans le sang de l'individu. Docteur Jacques Bafla est médecin généraliste.
L'électrophorèse de l'hémoglobine est un examen de sang qu'on réalise dans le but de détecter des anomalies liées à l'hémoglobine, qui est un pigment qu'on retrouve dans les globules rouges, dont le rôle est le transport de l'oxygène vers les tissus. Et si un couple ignore son statut sur le plan électrophorèse et se marie, électrophorèse de l'hémoglobine parce qu'il y en a d'autres, c'est que il y a ce que nous on appelle les porteurs de trait. Il y a des gens qui sont des porteurs de cette maladie, mais de façon saine. C'est des gens qui peuvent transmettre la maladie aux enfants. Et donc, si par malchance à un enfant, le père est porteur de trait, la mère est porteuse aussi de trait, lorsque les deux vont faire enfant, il y a une chance quand même que cet enfant soit malade directement, hein, parce que les deux parents vont donner le trait et les deux traits associés donnera la maladie d'emblée. Et donc, cet enfant, à son tour, va manifester cette maladie. Et donc, c'est très important au futur couple de connaître leur statut avant le mariage.
Faire son test d'électrophorèse avant de vivre avec un homme ou une femme, c'est aussi permettre aux enfants à venir de s'épanouir et de grandir dans la joie et la bonne santé.
La semaine qui s'achève a connu aussi la célébration de la fête de l'Aïd El-Fitr, célébré par la communauté musulmane. Une équipe de la rédaction a été dépêchée dans une famille musulmane pour rendre compte des festivités. Les détails dans ce reportage signé Hawaï Ali et Huguette Rontoyon.
Il est 9h, nous sommes dans les rues d'Abou Mekalavi, non loin du carrefour Bido Sessi. Un vaste espace accueille les fidèles musulmans en ce jour de Ramadan, une fête tant attendue. Vêtus de somptueux boubou, tapis à la main, les pieds ornés par le henné, hommes et femmes marchent en file pour suivre la prière. Bien installés, les fervents musulmans récitent pieusement une prière en attendant l'imam. Après la prière, l'imam clôture avec la prêche. Il donne les fondements de l'islam et exhorte ses fidèles à suivre les voies du prophète Mohammed, paix et salut, sur ses compagnons, sa famille et tous ceux qui emboîteront ses pas.
Craignez Allah comme il mérite d'être craint et observez-le dans le secret et en public, car les gens de la piété sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle. Ceux qui croient et qui sont pieux, ils auront la bonne nouvelle dans la vie présente et dans l'au-delà. Ô musulmans, sachez que l'islam est une religion complète.
De retour de la prière, les fidèles musulmans apprêtent avec convivialité les festins pour la fête. Coup de pilon, bruit de louche dans les marmites ou encore le bruit de la viande dans l'huile, tout cela montre l'effervescence des préparatifs de la fête et l'annonce des grands festins. Quelques fidèles musulmans parlent de la fête. Repus et satisfaits, ils clament leur joie et célèbrent la fin de leur jeûne.
Nous voici actuellement chez mon très cher oncle pour la fête. Ça s'est bien déroulé. On a eu à déguster des repas vraiment très chics. On rend grâce et on rend le Tout-Puissant. On prie également pour lui pour que les années à venir, ça puisse être quelque chose de plus extraordinaire que pour cette année. Je viens de finir de déguster de la salade, de l'ignam pilé.
Bonne fête de Ramadan. On a bien fêté, oui. On a bien fêté. On veut manger de l'yam pilé accompagné de la viande.
La fête s'est bien passée. Après qu'on a fait la prière à l'aïd, au retour, on a commencé déjà par préparer. On a l'yam pilé, on a fait. Donc on a préparé, on a pilé. L'ambiance était vraiment cool entre nous, on parlait, tout ça là. Et après, il y a eu les invités qui sont venus. On a mangé, on a bu. Et on a vraiment profité, quoi. Il y avait la musique aussi, tout ça là. C'était vraiment cool. L'ambiance était formidable.
Page culture. À présent, au sud du Bénin, dans l'aire culturelle à Djatado, les jumeaux sont considérés comme des individus à part entière. De leur vivant, ils sont vénérés. Décédés, ils sont élevés au rang de divinités et réincarnés dans des statuettes. Quelle est l'importance de la représentation des jumeaux? La réponse dans cet élément signé Didier Zissou.
Ils sont souvent au nombre de deux ou trois statuettes habillées en pagne traditionnelle. Parfois, on n'y trouve qu'une seule statuette en bois. Il s'agit des jumeaux réincarnés. Ils sont souvent bien siégés à une place fixe qui leur est réservée ou portés par leur mère lors des sorties. À voir ces statuettes, on s'interroge sur l'importance d'une telle réincarnation. Missihun, traditionnaliste.
Et les jumeaux des fois, parfois ils demandent à aller au marché. Faire leur amplexe. Oui. Nous sommes obligés de les amener. Ceux qui le savent dans le pays les aiment et les fêtent des cadeaux. Actuellement, il y a plein de religions et ces religions-là n'adorent pas les jumeaux. Comme nous, c'est notre coutume. Et notre, on les adore comme des fétiches. Vous voyez. Donc, c'est facile pour nous. Même si on nous injurie, on est là. On accepte donner de l'argent aux jumeaux, c'est un grand, c'est qu'on reçoit beaucoup de bénédictions.
Tous les jumeaux ne se ressemblent pas. Il en existe plusieurs catégories. Mehento Dosa est un sculpteur.
La réincarnation intervient chez nous quand un parent met au monde deux ou trois enfants à l'accouchement. Il arrive qu'un seul enfant soit jumeau. Dans ce cas, ce dernier, lors de son accouchement, ne vient pas au monde normalement comme les autres. Il vient au monde en cachant son visage avec les mains. Quand ces enfants naissent, ils sont considérés comme des jumeaux.
Une fois sculptées, les statuettes doivent être abritées par l'esprit des jumeaux défunts. David Kofi Aza est professeur et prêtre de Fa. Il nous explique ici comment la réincarnation se fait.
Le sens de la représentation, c'est les esprits. Une fois désincarnés, comme ils se substituent aux animaux dans la forêt, et ils ne partent pas complètement. Parce que vous savez, à un moment donné, l'esprit meurt par inanition. Par contre, l'esprit des jumeaux ne meurt pas par inanition. Ils se substituent aux animaux, donc qu'ils utilisent comme scaphandre. Et à partir de là, on les rappelle ou de les laisser dans la forêt. Peut-être qu'ils finiront par mourir de faim. On rappelle ces esprits-là. On leur crée une matière, une forme physique qu'ils vont maintenant animer. Ce qui fait que le boutio, je dis boutio parce qu'une fois que la sculpture est faite, elle ne porte pas le nom de jumeau. Elle est encore boutio. Avant qu'elle devienne divinité, il faudrait qu'elle subisse un certain nombre de processus rituels. C'est-à-dire que passer par la purification, la consécration, la charge, avant de devenir maintenant divinité. À partir de là, l'esprit du petit qui est parti, ou même si c'est une grande personne, cet esprit-là vient habiter ce réceptacle-là qui lui est ainsi créé.
Décédés à leur naissance ou même quand ils ont grandi, les jumeaux sont tous appelés à être réincarnés, a-t-il conclu.
La page sport cette semaine est une présentation de Awayali au menu. Ce sont les nouvelles de notre championne béninoise promise à une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Exactement, dans une conférence de presse qui s'est tenue le mardi dernier, Odile Rouanou a déclaré être prête à servir la cause de la nation pour la double championne d'Afrique en pantalon et médaillée d'or aux derniers Jeux africains Accra 2024. Revenir et gagner donne une fierté de représenter son pays, le Bénin.
Fierté de représenter le Bénin. De toute façon, chaque fois que je porte le maillot béninois, je suis doublement fière. Fière de ma racine, fière du Bénin, fière de là où j'ai quitté parce que je sais que j'ai quitté très très loin. Donc voilà, ça donne envie de se battre davantage. Donc je suis très très fière pour cette première médaille ou deuxième médaille.
La championne a indiqué que malgré son succès au championnat de France de pantalon, elle n'avait pas pu bénéficier d'une préparation physique complète pour des raisons de programmation rapprochée des compétitions. Elle évoque ici sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Ça se prépare bien. Après, vous savez tous que les Jeux Olympiques, la préparation, c'est pas aujourd'hui. Il faut commencer la préparation des années en arrière. Donc, tout le travail qui a été fait, c'est là. Donc, il va falloir continuer ce travail-là avec des stages, avec des compétitions, des grandes compétitions qu'on a déjà, avec mon entraîneur et mon staff, déjà calé. C'était compétition là. Donc il va falloir être en forme le jour J pour que ces jeux là soient plus belles que d'autres jeux par exemple.
L'envie d'accompagner et de soutenir la jeunesse dans des compétitions fait partie de ses objectifs. Elle énumère ses ambitions pour accompagner les jeunes sur l'athlétisme au Bénin.
Mon ambition c'est d'avoir pourquoi pas des écoles d'athlétisme au Bénin, que les jeunes commencent un peu très tôt avec l'aide de la fédération bien sûr, pour que les jeunes commencent l'athlétisme un peu plus tôt. Voilà, parce que nous comme je l'ai dit tout à l'heure, on va arrêter je sais pas quand, mais il faut que la relève se prépare avec l'aide de tout le monde.
Ce sera tout pour ce condensé de l'actualité que je vous remercie d'avoir suivi. Parfait. Afodéou était à la coordination technique. Ginette Fleur-Dandé, j'étais à la présentation. Merci et très bonne journée dominicale à tous.